Dans ce nouvel épisode de DevDevDev.net, on parle de AI Toolkit for VS Code, l'extension qui rend le développement des agents IA plus simple et plus rapide que jamais. Explorez les modèles, testez vos idées, créez des agents en quelques minutes, tout ça directement depuis Visual Studio Code. Avec David Rousset, PM chez Microsoft. DevDevDev.net, épisode 73, AI Toolkit pour VS Code, c'est parti! Donc, pour nous présenter ce fameux AI Toolkit for Visual Studio Code, pardon, je précise bien Code, on reçoit donc David Rousset, qui est PM, je crois, de ce...
Ouais, exactement.
Alors, ton rôle, ça consiste en quoi exactement ?
À m'amuser, à raconter plein de blagues en français.
Et en anglais.
Et en anglais, ça marche moins bien, je ne sais pas pourquoi. Je suis dans l'organisation Core AI désormais. Donc avant, j'étais ce qu'on appelait DevDiv, Developer Division, qui s'occupait de VS Code, GitHub, des services Azure. On a été émergé, donc on existe toujours plus ou moins, mais on a été émergé récemment avec l'organisation d'Azure AI Foundry. Et donc voilà pour l'organisation à laquelle je suis rattaché. Et mon rôle en tant que PM, du coup, c'est de travailler sur un produit qu'on appelle AI Toolkit, comme tu l'as dit, pour VS Code. Donc je vais expliquer ce que c'est. Mais je suis aussi en charge de revoir ce qu'on appelle la end-to-end developer experience. Donc c'est vraiment se mettre à la place d'un développeur qui voudrait faire une application qui utilise un modèle ou de faire ces fameuses nouvelles... GenAI app, tu vois, qui utilise de la GenAI. Comment ça se passe ta vie? Tu vas peut-être commencer dans un moteur de recherche, je ne sais pas comment tu commences tes recherches. Je vais retracer ton parcours et voir toutes les étapes qui ont été chiantes. Donc, peut-être la doc n'était pas bonne, peut-être que le sample pour commencer n'était pas bon, peut-être que l'installation ne s'est pas bien passée, peut-être que l'UX n'était pas bonne du produit, jusqu'au déploiement. Et hop, je fais un cycle comme ça. Donc, c'est beaucoup... de jouer moi-même avec le produit. Moi, je me considère toujours un peu développeur. C'est important de rester dev pour faire des produits pour les devs. Mais aussi beaucoup d'entretiens avec des clients. On fait des UX research. C'est très drôle à voir. C'est-à-dire que tu mets un client face à ton produit, tu lui donnes un scénario à faire, à coder, et tu n'as pas le droit d'intervenir. Tu dois le laisser faire. Et des fois, il part dans une direction en disant « Non, non, pas par là. » Mais en fait, s'il va par là, c'est que ce n'était pas assez clair. Et voilà. Et donc, voilà mon rôle aujourd'hui. Donc, beaucoup autour de l'AI et beaucoup aussi associé à GitHub Copilot. Donc, on travaille beaucoup à faire des expériences qui s'attaquent à GitHub Copilot. On s'aperçoit depuis quelques temps qu'il y a un changement de paradigme sur le développement. Bon, il y a des développeurs qui sont hermétiques à l'IA, qui ne veulent pas l'utiliser. Je pense parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on pouvait en faire. Je pense que c'est une erreur de ne pas au moins évaluer ce qu'on peut faire avec l'IA. Mais inversement, il y a une nouvelle génération de devs qui, elle, là, pendant les UX research, j'ai rigolé, au bout d'un moment, on est tombé un peu sur un développeur à la papa, un peu un vieux comme nous, qui, au lieu de faire un gros prompt pour analyser tout ce qui se passe, pour demander un gros prompt à l'IA, fais-moi tout ce morceau de code, il le faisait comme s'il le faisait lui-même. Genre, est-ce que tu peux modifier ces quatre lignes? Ensuite, il est sur Google pour chercher les jeunes qui étaient en train de regarder ça en disant, ah, le boomer, il va se faire une recherche sur Google au lieu d'utiliser Copilot. Donc, on a quand même une variété de développeurs à adresser, mais on a toute une nouvelle génération de développeurs qui a tendance à utiliser l'IA, et peut-être bien l'utiliser d'ailleurs, comme outil principal pour démarrer son projet. Et donc du coup, moi, mon rôle aussi, c'est de voir comment injecter au bon moment les suggestions de notre outil, dont AI Toolkit fait partie.
D'accord. Alors, on va faire peut-être un petit tour de l'AI Toolkit. Qu'est-ce qu'il y a? Alors d'abord, c'est que pour Visual Studio Code.
Ouais.
Il y a rien de prévu pour Visual Studio de tout court ou...
Pas à ma connaissance. L'historique de ce produit, c'est que ça avait commencé dans l'organisation Windows, qui voulait voir un outil pour les développeurs pour travailler sur les modèles qui tournent localement sur la machine. Donc, vous savez, les LLM tournent sur des grosses puces NVIDIA, en général dans le cloud, hein, que ce soit chez... Microsoft, Google, AWS, Anthropic, etc. Mais il y a des modèles qu'on appelle SLM qui peuvent tourner sur ta machine pour des tâches plus précises, et des fois même des LLM qui commencent à tourner sur les machines. Et donc, bien sûr, Windows, comme eux, ils sont plutôt attachés à valoriser la machine que tu as sur ton bureau. Regardez comment se débrouiller pour supporter le format Onyx. Donc, Onyx, c'est un des formats dans lequel est stocké le language model, et comment ensuite avoir des outils pour faire du fine-tuning de modèles existants, pour transformer des modèles existants vers le format supporté par Windows. Et donc, ils nous ont donné ce bébé-là à ce moment-là, de notre côté. Et de l'autre côté, on avait des gens qui étaient plutôt avec un background de data scientist, puisque ce qui est assez compliqué quand on joue avec l'IA, c'est que tu as quand même tout un panel de différentes personnes qui peuvent être intéressées. C'est ceux qui vont faire les modèles, fine-tuner les modèles, tester les modèles. Et les devs comme nous, enfin, je ne sais pas, Laurent et Richard, j'ai souvenir que vous êtes des devs proches de moi, nous, on va plutôt les utiliser et évaluer, du coup, la performance, faire du code qui va bien marcher avec un modèle particulier. Donc, les AI Toolkits, son rôle, c'était vraiment d'essayer d'adresser ce marché qui est assez vaste, hein, et on l'améliore au fur et à mesure en fonction des retours des gens, puisque l'IA, ça reste quand même quelque chose d'assez récent, et tout le monde apprend un peu en marchant. Donc l'AI Toolkit a commencé comme ça, et c'est pour ça que vous pouvez voir un peu les deux catégories que je vous ai décrites dans le produit, une qui va être plutôt pour quelqu'un qui démarre, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, pour comment je joue avec un modèle, quelles sont les capacités du modèle, donc il y a un playground intégré. D'autres qui vont avoir des connaissances plus avancées, là en général il faut plutôt des data scientists ou une bonne connaissance de comment on entraîne un modèle ou on teste un modèle, jusqu'à des transformations historiques qui venaient de Windows, de modèles vers le format Onyx. Donc c'était fait sous VS Code. Alors pourquoi? Parce que je sais qu'on a peut-être des fans de Visual Studio .NET dans la pièce. tu as partagé d'ailleurs récemment, Richard, j'ai vu là, je crois que c'était sur LinkedIn, le classement des langages. Ouais. Python aujourd'hui est énormément utilisé dans tout ce qui est IA, pas uniquement pour l'aspect data science et tu vois entraînement de modèles, mais même dans l'écriture du code des apps. Moi, je ne suis pas un grand fan de ce langage, hein, mais en fait, il faut mettre de côté ta religion quand tu fais un produit.
Ouais, faut être réaliste.
Ouais, tu regardes le marché. Et donc, nous, VS Code, c'était l'outil le plus adapté pour adresser ce segment-là, sachant que du coup, VS Code, ça tourne sur Windows, Linux, Mac, ça tourne partout. Partout.
Ok, donc on a une première partie qui est le catalogue des différents modèles. Donc, alors ça c'est la première partie. Après, il y a une deuxième partie qui est Playground, qu'on retrouve un petit peu sur Azure Foundry, c'est-à-dire qui permet de télécharger ou d'utiliser un modèle qui est distant ou local. D'ailleurs, en local, ça supporte quoi? Ça supporte Ollama, Foundry local?
C'est une bonne question. Alors déjà sur les modèles, sur la première partie, on expose. Il faut savoir que AI Toolkit, c'est devenu un package d'extensions. Donc tu as l'extension AI Toolkit même historique. Et mon équipe, on est également en charge de l'extension VS Code de AI Foundry. C'est-à-dire que imagine que tu aies une subscription Azure et que tu as tes modèles déployés dans AI Foundry, tu vas pouvoir les retrouver également dans l'extension. Donc on travaille avec eux pour faire le lien entre le portail Azure et VS Code. Donc il y a une histoire Azure, il y a une histoire aussi avec GitHub. Donc GitHub, souvent les gens, un des freins qu'ils ont en tant que développeur, on va dire seul ou dans une petite équipe, ils disent c'est quand même compliqué de trouver un modèle avec lequel je peux jouer pour pas cher, quoi. J'ai pas envie de donner ma carte bleue. Il y a plein de gens qui trouvent ça super chiant, la partie subscription à Azure, tandis que GitHub, c'est quand même beaucoup plus simple. Souvent, tu peux avoir une sub GitHub parce que tu as GitHub Copilot ou parce que tu mets ton code sur GitHub. Et donc, les modèles, il y a des modèles qui sont hébergés sur GitHub, donc on appelle des GitHub Models, que tu peux également utiliser depuis AI Toolkit dans le Playground. Et ça va utiliser, forcément, tu as un système de quota token associé à ta sub, tu vois. Donc, il y a une partie free où tu peux, dans la première partie, si tu veux tester comment ça marche, c'est assez, assez bien. Ensuite, sur la partie locale, qu'est-ce que ça supporte? Alors oui, on peut travailler avec Ollama. Donc, si tu installes Ollama, tu peux ensuite voir les modèles intégrés qui sont fédérés au niveau de AI Toolkit. Récemment, on a bossé avec Foundry Local, donc qui est la partie locale créée par les gens de AI Foundry. Et donc, on supporte le format Onyx. Donc ça, c'est historique depuis Windows. Et ensuite, ils vont tourner en fonction des capacités de ta machine. soit sur ton CPU. En général, si tu peux faire tourner que sur le CPU, t'es foutu, hein, parce que le CPU, faire tourner un modèle de langage, il va mourir. Ou alors, il ne faut pas être pressé. Hein. Mais ça peut tourner comme un backup plan, si tu veux au moins tester un petit peu comment ça fonctionne. Vaut mieux avoir un GPU. Le GPU, donc, ce qui compte, le nerf de la guerre, c'est surtout la mémoire VRAM disponible. Parce que rapidement, en fait, il ne faut surtout pas que le modèle sorte de la mémoire
vive, ouais.
VRAM, parce que sinon, si ça commence à s'étendre sur la partie CPU, tu es mort aussi, tu pètes les performances. Donc, en fonction de votre GPU, bah, vous pouvez avoir quand même des modèles qui tournent bien. Hein. Moi, la dernière vidéo que j'ai faite, là, je charge un modèle qui a je ne sais plus combien de milliards de paramètres, qui prend 16, 20 gigas de ma 5090, et ça
ouais,
tourne bien, quoi.
Tu as une bête de course aussi. Hein.
Oui, alors effectivement, le GPU coûte 2500, je ne sais plus combien ça coûte, très cher. Mais ce serait intéressant de faire le calcul de rentabilité entre la consommation que tu peux avoir en ligne. Bon, sachant que je pense que l'air de rien, il faut quand même en faire pas mal des requêtes pour amortir, parce que tu as plein de modèles qui coûtent pas très cher pour tes premières phases de dev, quoi. Et on a également un support de ce qu'on appelle les NPU, donc Neural Processing Unit, qui sont vraiment du hardware spécialisé pour l'évaluation des modèles. Donc tu peux retrouver dans certaines surfaces les Copilot plus PC que tu peux avoir. Mais à nouveau, un NPU qui est dans les dernières surfaces, c'est un dixième de la puissance de calcul de mon GPU, en fait. Hein. Donc, donc, il va falloir trouver des scénarios vraiment très précis. Parce que du coup, tu peux utiliser sur la machine de dev pour aussi viser des devices qui l'auraient. Typiquement, si tu vises des devices Copilot plus PC, tu peux t'entraîner à voir justement alors quels sont les scénarios où je peux limiter le modèle pour pas qu'il sature. Donc voilà à quoi ça sert la partie locale de AI Toolkit. C'est de jouer avec, hein, de manière gratuite si vous avez une bonne machine, mais aussi de créer des scénarios un peu on the edge, c'est-à-dire qu'un peu hybride, c'est où tu peux avoir de l'IA qui tourne localement et éventuellement avec un fallback qui va tourner ensuite avec une IA dans le cloud.
Ok.
J'ai juste une petite question parce que je suis un peu confus là, avec ce que vous venez de dire.
Et confused.
Ouais, confused. Donc le AI Toolkit, c'est on peut télécharger des modèles, les faire tourner en local. Et à un moment, vous avez parlé de la relation avec Ollama. Et pour moi, Ollama, c'est un outil semblable. Est-ce qu'on parlait plutôt du modèle Llama ?
Non,
c'est Ollama, c'est un service que tu peux installer sur ta machine.
Ah oui, je connais bien.
Et donc, en fait, nous... En fait, l'idée de l'AI Toolkit aussi, à terme, ce que moi, j'aimerais bien faire, en fait, c'est que ça soit un peu the place to be pour quelle que soit, finalement, la manière dont tu t'intéresses à l'IA. Donc, si tu veux récupérer, centraliser tous les modèles que tu as installés dans une interface sous VS Code, qu'on puisse aller chercher comme ça ces différentes informations. Ollama peut tourner tout seul, effectivement, sans AI Toolkit. On n'a pas besoin d'eux, mais tu vois bien que c'est un peu le bazar déjà en ce moment sur l'IA, c'est que tout le monde apporte sa solution, donc on essaye un peu de fédérer dans une UX unique dans VS Code ces choses-là. Mais effectivement, Ollama, c'est pas nous, et Ollama peut tourner très bien à côté sans qu'on l'intègre.
Du coup, il y a tout le kit avec Ollama, ça ramène quoi ? C'est ça que j'arrive pas trop à comprendre.
Alors, ce que tu peux faire, c'est juste que tu peux le tester dans notre playground, donc dans l'interface. Tu peux éventuellement générer un agent qui va générer du Python ou du TypeScript, où tu vas pouvoir utiliser le modèle sans que tu aies vraiment connaissance de... Tu aurais pu faire un coup de CLI ou faire ton propre code pour l'utiliser. Mais nous, on va donner des outils un peu de boosting pour que ça soit plus simple à découvrir.
D'accord. Donc, c'est plus clair pour moi.
D'accord. Merci pour ta question, alors.
Oui, parce que alors d'après ce que j'ai vu, quand tu télécharges, par exemple, de GitHub, depuis GitHub, tu peux avoir une phase de transformation quand même.
Oui, ça dépend des formats supportés. Donc, effectivement, il faut. C'est pour ça qu'on a une partie transform dans l'outil. Ça dépend. Tu sais, il y a plusieurs formats différents. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même d'avoir quand même un catalogue qui soit à jour et qui supporte le bon format de notre manière de hoster le modèle. Mais imaginons qu'il y a un super nouveau SLM qui sort et que tu veux absolument l'utiliser le jour même et qu'on n'a pas encore fait le travail de conversion, tu peux faire la conversion avec l'outil toi-même.
D'accord. En background, ça utilise Olive, non, je crois, ou un truc comme ça.
Alors, je sais, je ne maîtrise
je sais
pas cette
pas.
partie-là. Ouais.
D'accord, ouais. Donc, avec le background, tu peux tester ton LLM ou ton SLM. Et après, tu as le prompt agent builder. Si je ne
Ouais.
m'abuse.
Je vais aller voir dedans pour voir quelle partie.
Qu'est-ce qui me cause?
Ouais. Parce que là, on était sur le playground. Moi, je vois model tool, je vois conversion. Agent builder, c'est ça que tu appelles?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, l'agent builder, en fait, c'est un truc qu'on. Pareil, c'est comment démarrer un agent de manière simple. C'est quoi un agent, en fait, hein? Alors, il y a plein de débats sur qu'est-ce que c'est un agent. C'est un sans fin, mais en gros, bah, tu vas choisir le LLM qui t'intéresse ou le SLM éventuellement en fonction de ses capacités. Il y a des instructions, il y a des tools. Donc, les tools, c'est soit bah, un appel d'API, soit un serveur MCP que tu vas embarquer. Le knowledge que tu associes à ça, un agent, c'est un package en fait, hein, c'est pas que le LLM. Et donc, bah, bien souvent, la première étape, hein, là où on passe pas mal de temps quand on fait du dev autour des IA, c'est sur le prompt engineering. Bah, ça va te permettre de le fabriquer et de le tester en direct, pas uniquement avec le modèle, mais avec un ensemble d'outils associés. Donc, tu commences à te rapprocher de ce que tu vas voir en prod en général, puisque c'est la phase où on utilisait uniquement les LLM, ça remonte à longtemps, il y a peut-être
ouais.
2 ans.
Oui, voilà.
Ça longtemps. Il n'y a plus personne qui fait ça. Mais du coup, une fois que tu as sélectionné le modèle, et que tu veux le packager sur un agent, tu peux passer sur l'Agent Builder qui va ensuite te fabriquer un agent que tu peux utiliser. Et comme on travaille également avec le AI Foundry, quand tu crées un agent côté AI Foundry avec l'autre extension, bah, l'idée c'est de qu'il apparaisse dans le portail AI Foundry de l'autre côté. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé AI Foundry, mais il y a un service qui s'appelle Agent Service, où l'idée c'est aussi de te packager sous forme d'une plateforme SaaS quelque part, où on te gère la gestion de la conversation, tu sais, les plusieurs threads, la gestion du contexte, de la mémoire, tout ça, c'est packagé dans un service qui s'appelle AI Foundry Agent Service. Et bah, pareil, qu'on crée un agent depuis notre extension VS Code, il va apparaître de l'autre côté. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que tu préfères. Hein, il y a des développeurs qui détestent aller dans le portail, qui préfèrent être dans VS Code. Il y en a d'autres qui ils vont pas aimer non plus être dans VS Code, et là on va plutôt travailler sur la CLI, tu vois.
D'accord. Ok.
Est-ce qu'il y a des overlaps avec les outils de GitHub? Comme début de l'année, ils ont lancé un truc qui s'appelle GitHub Model Prompt Editor, si je me rappelle bien. Parce
oui,
que là,
alors,
ça semble pas mal la même
oui,
chose quoi,
oui.
sur
alors,
cette partie-là.
Tu as raison, je pense qu'il y a un travail à faire chez Microsoft. D'ailleurs, c'est un de mes jobs des prochains jours, prochaines semaines, c'est de faire de la convergence chez Microsoft. On aime bien créer la même chose, des fois, dans plusieurs entités différentes. Bah, souvent, les gens sont un peu perdus. Alors, soit ils ne le voient pas, c'est-à-dire que toi, tu as peut-être une bonne vision transverse de Microsoft dans son ensemble avec GitHub intégré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, c'est marrant d'ailleurs, connaissent Microsoft qu'à travers GitHub, par exemple. Jamais ils iront voir ce qui se passe dans Azure. La difficulté pour nous, c'est d'adresser tous ces types d'audience, mais du coup, ça peut faire l'impression qu'il y a des produits en overlap ou en duplication, je suis d'accord avec toi. Ensuite, il n'y a rien d'incroyable hein, dans l'Agent Builder. Hein. C'est juste un outil facilitateur pour toi pour éviter que dans ton code, tu passes ton temps à aller le modifier, le relancer. C'est assez pratique. Ça.
D'accord. Mais, ok. Après, bon, il y a des outils justement pour tester. Là, il y en a un que j'ai vu là qui est assez intéressant, c'est le Bulk Run. Donc, c'est pour tester une multitude de prompts pour voir les résultats. Ça permet de voir justement ton LLM comment il se comporte par rapport à plusieurs scénarios. Alors, il y a également la possibilité de faire soi-même son LLM, de fine-tuner son LLM. Alors ça marche comment si...
Plutôt bien. Oui, alors déjà la phase d'évaluation. Il faut savoir que c'est un problème vraiment important dans l'industrie actuellement. Avant, je travaillais proche des gens de Microsoft 365 Copilot. Donc, je faisais gérer un toolkit qui aidait à faire des agents pour eux. Et j'ai pas mal discuté avec l'architecte de Copilot. Donc, c'était vraiment intéressant. Le problème que tu rencontres quand tu discutes avec les équipes chez nous, mais avec nos clients, c'est comment évaluer un modèle. C'est super compliqué parce qu'avant, nous, les vieux briscards que nous étions, c'est qu'on envoyait des jeux de données. Tu avais les jeux de sortie, c'était facile à tester. Ça doit faire 5, je fais un test à 5. Là, tu as une réponse qui est à chaque fois un peu différente, mais quel est le niveau de pertinence de cette réponse? Il faut appeler les bons outils. Des fois, il ne comprend pas bien comment appeler ton API. Donc, cette phase-là, elle est quand même ultra importante. Donc, c'est pour ça qu'on voulait l'intégrer. Pareil sur la possibilité d'évaluer différents modèles. Donc, pareil, imaginons que tu as fine-tuné tout ton code. Je sais pas si vous avez déjà joué avec, ça a dû déjà vous arriver. Tu finis de manière presque intuitive. C'est un peu étrange, hein, d'ailleurs, quand tu discutes avec les LLM à dire, tiens, ce prompt-là, il marche bien. Et j'arrive à chaque fois, je fais plein de tests et je m'aperçois que c'est exactement ce que je veux comme réponse. Tu vois, bon, ouais. De temps en temps, il merde un peu. Tu dis, bon, c'est l'IA. Bon, ça merde de temps en temps, c'est pas grave. Et tu changes de modèle et là, tu t'aperçois que ton prompt que tu as travaillé aux petits oignons, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu vois. Donc, tu as quand même une phase de stickiness au modèle qui est embêtante. Donc, c'est important de pouvoir, du coup, évaluer plusieurs modèles de manière un peu automatisée. Pour pouvoir ensuite switcher de l'un à l'autre. Et je pense que tu as quand même besoin de gens qui ont l'habitude de ça. Donc, ça peut être des data scientists ou des devs qui ont l'habitude de ce truc-là. Mais imaginons que tu atteignes la limite je ne sais pas moi, tu t'aperçois que le tool calling, là, qui doit appeler une API, il marche 70% des cas. Et tu dis, c'est pas mal 70%, mais oui, c'est pas assez bien pour aller en prod, en fait. Ouais. Tu vises plus que ça. On a fait une étude récemment où justement on faisait un modèle fine-tuné spécifiquement pour... du coup, c'est très spécifique à l'appel presque de ton API ou ton jeu d'API. Mais on prend un modèle existant, un GPT ou peu importe, on le fine-tune et là, on s'aperçoit qu'on a énormément boosté l'accuracy de l'appel des outils, des API ou des serveurs MCP. Alors, il y a plein de questions qui se posent. À quel moment je dois faire du RAG, à quel moment je dois faire du fine-tuning, parce que pareil pour le RAG c'est une source externe qui va permettre de minimiser, on va dire, l'hallucination des modèles, mais tu pourrais te dire au bout d'un moment, ça génère beaucoup de tokens dans la context window, est-ce que ça serait pas plus mal de l'intégrer dans le modèle directement avec du fine-tuning? Donc tu as plein d'arbitrages à faire là-dessus, il n'y a pas de réponse générique, mais le fine-tuning peut arriver à ce moment-là, et dans ces cas-là, à nouveau, il y a un processus où il faut travailler avec, je pense, des data scientists qui vont t'aider à trouver la bonne façon de fine-tuner le modèle, parce que ça peut coûter très cher, le fine-tuning, parce qu'il va tourner dans Azure, ce coup-ci, et il faut plusieurs heures pour qu'il puisse faire l'étape de fine-tuning. Par contre, le trade-off, c'est que tu peux te dire, imaginons que ça m'a coûté $100 de créer un modèle fine-tuné. Si je me retrouve derrière parce que je fais beaucoup moins de tokens appelés dans cette context window, ou si j'améliore mon accuracy d'API call, je suis bénéfique, quoi.
Et de revenir sur le test, je pense que c'est franchement important d'avoir ce genre de choses pour aller en prod, parce qu'effectivement, comme tu dis, le LLM, ça devient une commodité, comme un peu une third party, comme une dépendance sur son... une dépendance. Et donc... pouvoir le changer pour pouvoir évoluer, tu ne le changes pas comme ça, quoi. Tu as besoin d'avoir des tests qui vont te dire ça marche toujours aussi bien ou ça marche mieux ou ce genre de choses, quoi. Sinon, tu n'as aucune visibilité sur ça, quoi.
Pour moi, c'est une dépendance complète comme on l'avait avant sur des DLL ou des librairies.
Exactement, ouais.
Sauf que la complexité, c'est qu'avant la DLL, on pouvait facilement faire des jeux de tests unitaires et on prenait une nouvelle version, on regardait et rapidement on savait si ça passait, ça passait pas. Là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'on fait, il y a une technique qui est assez connue maintenant, c'est que tu utilises un autre LLM qui va valider la réponse produite. Donc, tu utilises l'IA pour valider ce que fait l'IA, sachant que ça reste une IA, donc elle peut faire l'hallucination et se tromper. Donc, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont faites. Je ne pense pas qu'on ait trouvé l'automatisation parfaite pour tester ça. Donc, il y a beaucoup de travail humain. Donc, du coup, on pourrait aussi se poser la question, l'IA va détruire des jobs, mais peut-être va en recréer d'autres qui vont s'occuper. On a besoin de phases humaines de validation de cette partie-là. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Laurent. Moi, c'est vraiment le stress que j'ai eu en tant que développeur. Quand je me suis dit, si je mets ça en prod, et qu'on me dit, je ne sais pas, moi, GPT 3.5 Turbo, c'est terminé, tu n'as plus accès, il faut que tu passes à... Mais c'est super, passe à GPT 5, c'est vachement... Ouais, mais moi, j'ai tout fine-tuné mon expérience sur ce modèle. Et tu me... Donc, finalement, la dette technique, elle peut être importante. Et puis, tu n'as pas le choix, parce que le modèle, il est retiré. Donc, on dit, tu as un mois pour switcher de l'un à l'autre, quoi. Donc, je pense que ça va devenir assez critique, effectivement. Et je pense que les gens doivent avoir cette prise de conscience aussi de la dépendance vis-à-vis des modèles.
Surtout que ça bouge presque plus vite que les frameworks JavaScript, quoi. Donc,
ça, c'est clair. ça bouge vite, ça bouge vite. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées, qui sont dans la dernière partie de l'outil. On voit MCP, donc Model Context Protocol. Donc, ça a été créé par Anthropic, où il commence à avoir une... l'industrie commence à réagir à tout ce bordel ambiant, je pense, pour essayer de dire bon, comment on peut faire communiquer tout ça correctement. Donc ça a été créé par Anthropic pour essayer d'avoir un modèle standardisé pour appeler soit un outil, donc une API, ça peut être code interpréteur, ça peut être d'autres choses, soit un autre agent. Et il y a Google qui a travaillé sur Agent to Agent Protocol, qui lui est vraiment spécifique sur le multi-agent. Et c'est marrant parce qu'on voit toute l'industrie... Avant, il y aurait eu Microsoft qui a créé son Microsoft, je ne sais pas quoi, protocole à la place. Là, on n'a vraiment pas le temps. C'est que, et je pense qu'on a changé d'époque. On se dit qu'il faut vraiment que, pour l'adoption aussi, il y a des développeurs, il faut qu'on soit le plus ouvert possible. Donc, côté fonderie, on a tout de suite adopté MCP aussi, ouais, Agent to Agent, pour que, comme As You Are, quoi, un peu comme McDo. Quoi.
Ouais. Oui, parce que c'est vrai que pour le protocole MCP, le SDK C Sharp, il est arrivé tout de suite, quoi. Enfin, c'est
quasiment.
Ouais.
Alors, pour A2A, je travaille justement avec les gens qui le font, parce qu'il n'y avait pas... Moi, j'ai commencé à m'intéresser au protocole A2A de Google. J'étais sur le repo et j'ai vu zéro truc de C Sharp .NET, quasiment. Donc, ouais. tout Python ou JavaScript ou Go, je ne sais plus, ça doit être... Ils ont dû faire des trucs comme ça. Et moi, j'ai fait un flag en interne et il y a des gens qui, de la partie .NET qui travaillent en ce moment sur un repo A2A pour qu'on ait la version .NET de tout ça. Donc, c'est en train d'arriver parce que du coup, le protocole évolue assez vite aussi. C'est un truc dans, ouais. dans là, l'IA, bah, il ouais. faut suivre. Quoi. Donc, en tant que dev, tu n'as pas envie de te saouler à dire ah, ils ont changé la présentation du JSON de la carte ou je ne sais pas quoi. C'est,
ouais. Voilà. Ouais, c'est pareil pour le protocole MCP. Tous les deux mois, il y a un nouveau draft qui sort.
Ouais. Et côté VS Code, on a été parmi les premiers aussi avec GitHub Copilot à bien supporter MCP. Et c'est, enfin, là, ouais. ça a changé la vie. Franchement, moi, j'ai vu des mecs en interne, même que j'aidais, grâce à MCP. Le simple fait d'avoir par exemple, la doc Microsoft en MCP, tu vois. Il y a plein de gens, ils vont même plus dans le portail. C'est-à-dire que où il faut les trucs. Ils sont avec un agentic terminal, comme ils disent. Donc, ça peut être dans GitHub Copilot, ça peut être dans d'autres solutions concurrentes. Et ils demandent à l'agent, voilà, je veux dans Azure que tu me donnes la permission machin à tel utilisateur. Et le truc, il va processer, il va réfléchir, il va appeler le serveur MCP, il va utiliser la CLI, il va voir que la CLI, des fois, il se merde. Il fait, ah, mais oui, j'ai oublié qu'il fallait tel flag et tout. Mm-hmm. Franchement, c'est assez impressionnant comment ça a transformé le protocole MCP aussi, les usages des développeurs, pas juste pour le code, mais aussi pour toute ton expérience de dev complète, quoi.
Ouais. Alors, bah, je faisais une démo au boulot de l'utilisation justement du serveur MCP de GitHub, intégré avec celui de Jira. Non, en fait, c'est celui de Jira. Où en fait, on a notre application, elle log à travers un outil de Microsoft qui s'appelle App Center. Elle log les exceptions et elle va créer des tickets dans Jira. Mm-hmm. Par contre, elle est capable d'éviter certains doublons pour certains cas, mais pas pour tous les cas. Et en fait, avec le MCP dans Visual Studio Code plugé sur Jira, je peux lui demander, ben, va me chercher les doublons des tickets que tu trouves sur les bugs, groupe-les par version. Et comme ça, on peut focaliser notre effort sur le travail qui est important, quoi. Autrement, tu tapes tout ce travail à la main, quoi.
Ah ouais. Non, mais c'est un très bon usage que tu as eu de l'IA. Et on le voit de plus en plus comme ça. Elle va s'infuser à différentes étapes, tu vois. Pas forcément toujours dans l'app en prod, hein, mais... moi, c'est, du coup, c'est une de mes missions. Hein. Moi, je trouve ça passionnant. C'est l'agentic DevEx, je bosse là-dessus. Ou tu as l'IA qui est dans toute la phase de préparation, de codage et de déploiement. sans forcément l'utiliser ensuite en prod. Tu n'utilises pas forcément LLM, mais c'est ultra pratique une fois que tu as compris ce que ça peut faire. Et dès l'instant que tu restes en contrôle, parce qu'on a eu beaucoup le débat, les développeurs vont tous mourir avec l'IA et tout, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais en attendant, on se fait les réflexions avec des devs un peu plus seniors. On se dit, je pense que ça marche encore mieux avec les devs seniors parce qu'on voit tout de suite l'IA dérailler, partir dans la mauvaise direction, tu vois. Tandis qu'un junior, peut-être, n'aurait pas eu ce réflexe, tu vois. Ah. Pareil, si tu as un peu d'expérience dans Azure, je pense que ça fait plaisir à personne de s'emmerder dans le portail à chercher tous les trucs. Et si tu dis à l'agent, t'as quand même une idée assez précise de ce que tu veux, mais tu ne te souviens plus dans les détails, tu dis, la dernière fois, je bossais avec un mec qui galérait pour déployer un de mes samples, il dit à l'IA... est-ce que tu peux ajouter David Rousset à ma subscription Azure sur ma partie AI, tu vois? Eh bien, l'IA l'a fait, OK, c'est qui David Rousset? Il faut que je trouve son ID. Donc, elle fait une recherche avec les CI. OK, c'est tel ID. Tu veux tel sub? Parce qu'il y avait plusieurs subs, je choisis ce sub et tout. Franchement, j'étais bluffé. Moi, j'y crois. Des fois, même moi, je suis encore surpris par l'IA en me disant, quand ça marche, c'est quand même bluffant. Mais ça n'aurait pas fonctionné. Il restait en contrôle. Et là, peut-être qu'il aurait dû faire ce travail lui-même, quoi. Mais... c'est top.
Non, mais je pense que c'est un vecteur d'accélération pour certaines tâches qui sont répétitives, chiantes ou qui permettent d'être automatisées à un autre niveau, quoi. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas qu'une utilisation en prod, mais pour les devs, c'est... OK, on entend parler de la création de code, mais une fois qu'on comprend un peu l'avantage que ça peut avoir et les différents outils, on peut en profiter sur tellement d'autres endroits que c'est important. Ça accélère tout ce qu'on peut créer comme valeur, quoi, je pense.
Ok. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait bon, après, bon, il y avait donc toute la phase d'évaluation là où donc on peut faire ça de façon automatique. Tu avais autre chose que tu voulais nous parler sur le.
Alors la dernière chose qu'on a faite, je pense que c'est peut-être suite à cette vidéo que tu m'as contacté, mon cher Richard, c'est qu'on essaye aussi d'être un fournisseur à GitHub Copilot comme fournisseur de modèles. Soit à nouveau pour revenir un peu sur ce que disait Laurent sur Olama, peut-être que tu aurais pu le faire toi-même, mais là on est une espèce de hub facilitateur où on voit que tu as des modèles dans Azure AI Foundry ou que tu as GitHub, les GitHub modèles que tu as référencés ou un modèle local. Et ben on va pouvoir dire à GitHub Copilot, au lieu d'utiliser le modèle que tu utilises par défaut, qui peut être un GPT ou un Claude, voilà, je te fournis une autre source de modèle et travaille sur ce modèle là. Ça réduit ton token sur ta sub principale. Peut-être que tu as un modèle que tu sais qui fonctionne bien avec ton style de développement, ton repo à toi, tu sais que ça marche bien avec je ne sais pas quel modèle. Donc, c'est sympa d'avoir cette ouverture. Et un autre truc sur lequel on travaille, c'est qu'on a exposé l'extension. Alors ça, c'est un truc qui est fait de plus en plus souvent chez Microsoft, d'exposer l'extension sous la forme d'un serveur MCP pour qu'il soit utilisé ensuite par GitHub Copilot. Pourquoi ça peut être intéressant? Imaginons que tu veuilles développer une app qui utilise un modèle, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Moi, j'avais fait une autre vidéo où je m'étais amusé à créer un Space Invader et je voulais que les niveaux de Space Invader soient générés par de l'IA, tu vois. Mais pareil, je veux pas que ça me coûte, je veux un modèle facile à utiliser qui ne me coûte pas cher, qui est dispo rapidement. Ben en fait, GitHub Copilot, comme on avait AI Toolkit qui était référencé en tant que serveur MCP, nous, on a un tool qui te dit, voilà les modèles que moi, je connais, qu'ils sont capables de faire. On est capable de dire, GitHub Model, par exemple, tu y as accès, ça va te coûter rien, entre guillemets, pour le tester. Donc, par défaut, te faisait une suggestion dans la génération de code, tu vois, pour utiliser ce modèle-là. Donc, on est en train de voir aussi comment influencer un petit peu. Alors, c'est quand même assez touchy parce que réussir à influencer dans la bonne direction en fonction de ce que tu veux, tu vois, sans avoir 12 000 aussi tools référencés, parce que du coup, on a commencé à avoir toutes les équipes de Microsoft qui faisaient un serveur MCP dans leur extension, parce que tout le monde doit être visible dans GitHub Copilot. Donc, on commence à avoir de la virtualisation d'outils où, en fait, les gens groupent plusieurs outils sous un même call et ensuite, ça te fait une arborescence, en fait. D'accord. On commence à avoir ce niveau de complexité. Et on travaille également là-dessus à l'intégration dans GitHub Copilot.
Oui, il y a quelques mois ou un an et demi, je ne sais plus exactement, je faisais un parallèle avec le monde des comment on appelait ça à l'époque, les services avec UDDI, WSDL, les genres de trucs.
Et les UDDI, web services.
Les web services. Mais cherche un autre nom, mais c'est pas grave.
SOAP.
En fait, il veut SOAP, mais c'était
WSF
ouais, service orienté. Voilà, c'est ce que je cherchais. En fait, tu avais le service UDDI qui te permet, que tu pouvais interroger dynamiquement pour dire hey, « j'ai besoin d'aller faire ça, qu'est-ce que tu me recommandes comme service à aller appeler ?» Et ça, c'est quelque chose qui va arriver forcément, parce qu'on ne peut pas définir tout ce qu'on veut aujourd'hui, par exemple, pour le serveur MCP. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver.
C'est une de mes frustrations un peu dans le côté IA, c'est super smart, ça fait tout et tout. Et moi, c'est ce que le premier feedback que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois, hein, qui est et c'est malin que ça pourrait détecter mon intention et comme tu dis, aller faire une requête dans un catalogue et sans forcément appeler automatiquement une autre IA, un autre outil, mais me faire une suggestion en disant j'ai l'impression que pour ce besoin, tu pourrais gagner en productivité. Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que tu m'autorises? Etc. Et on commence à aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que nous, on a récemment annoncé un repository de serveurs MCP et je pense qu'à terme, oui, c'est ce qui se passera. C'est que d'ailleurs, à mon avis, un des frontales de ces repositories sera une IA, d'ailleurs, un agent qui s'occupera de répondre à un autre agent pour aller sélectionner les bons outils et ensuite prendra l'outil, le mettra en direct avec l'IA qui l'a appelé, quoi. Mais c'est, ouais, on bosse sur cette direction. Ensuite, la question, c'est les patterns associés parce qu'on discute beaucoup de multi-agents, mais le multi-agent, c'est aussi multiplier les chances de foirage, quoi, tu vois. C'est, ouais. Donc. on est encore en train de réfléchir sur les bons patterns là-dessus.
Oui, ben, je crois que sur le site de Model Context Protocol, ils ont mis en place un serveur et puis justement un serveur MCP pour l'ensemble des serveurs MCP référencés, je crois.
Ouais. Un méta MCP.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Ouais, ok, bon, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de cet outil. C'est vrai que c'est assez. Alors, juste un truc, alors c'est vrai que vous avez un repository sur GitHub, mais le repository, c'est juste de la documentation. Le code source, j'allais dire, de l'AI Toolkit, il est privé, quoi.
Ah, je ne sais plus si. Bon, ça, c'est une bonne question. Il ne me semble pas. Parce que mon ancienne extension, elle était open source. Le Agent Toolkit, mais pour les AI Toolkit, je ne me souviens plus. C'est possible qu'elle ne soit pas, parce que comme elle venait de Windows, qui n'a pas forcément la même culture que nous.
Oui, bah c'est comme pour Foundry Local. Foundry Local, c'est
ouais, ça, sauf, ouais, ça ne l'est pas, effectivement. Non, mais tu as peut-être raison, il faudrait que je regarde, mais il n'y a pas le build de l'extension dessus.
Ouais.
Okay. Je me renseigne de savoir s'il y a une raison particulière, mais...
Ok, bah écoute, bah je te remercie pour
avec plaisir, j'incite les gens à le tester, à nous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, à m'insulter sur les réseaux sociaux s'ils n'aiment pas un truc. Si vous êtes français, vous pouvez venir me voir, du coup, c'est toujours sympa de discuter avec des clients qui parlent le français. Mais oui, il y a pas mal de choses à faire et on a beaucoup d'ambition pour faire bien mieux. À terme, on aimerait bien que ça soit vraiment la porte d'entrée principale pour tes devs. Tu veux utiliser de l'IA, voilà, c'est que ça soit simple, compliqué, tu vois, qu'on puisse t'aider, quelle que soit l'étape dans ton usage de l'IA.
Ouais, c'est vrai que pousser un petit peu plus C#, ce serait bien quand même. Je dis pas jusqu'à VB.net, mais...
VB quoi?
Mais si ça arrive, il y a de fortes chances que ça soit dans VS Code malgré tout, tu vois, parce que pour pouvoir faire du multi-OS, et maintenant qu'on a pas mal d'outillage C#. Pendant un temps, politiquement, c'était compliqué de sortir des trucs de C# de Visual Studio. Maintenant, on a beaucoup moins le souci. Donc, je pense que ça arrivera. Mais ça dépend aussi de toi, en tant que client, Richard, de venir râler, de dire, moi, je veux un support.
Je râle jamais, moi.
Pareil pour toi, Laurent. Si on s'aperçoit qu'on a une demande, nous, c'est assez pragmatique, hein, comme tout le monde. Ouais. On a des équipes d'engineering pas infinies, même en tant que Microsoft. Donc, regarde là où est le marché principal à les capter. Et puis, on s'adapte en fonction de ça, quoi. Sachant que, tu vois, à part, il y a une partie de génération de code dans l'Agent Builder, mais tu peux, même si tu es dev C#, .per, tu peux utiliser cet outil pour jouer avec les modèles, les évaluer, et puis après l'intégrer dans ta solution C# si tu le souhaites.
Ok. Bon, dernière chose, je voulais faire un petit coup de pub pour notre ami David. J'ai reçu ce matin, là.
Mais partout, donc, il s'insère partout.
Il est partout.
Félicitations à mon copain qui a mis... Il a été rapide à faire... Comme quoi, il a des bons LLM qui travaillent pour lui aussi, autant pour ouais. La génération d'images que le texte.
Quoi. Ouais, bah, Photoshop, maintenant, il y a de l'IA de partout.
Ah, mais c'est bien. Et je pense, tu vois, c'est souvent, on m'interroge sur les IA. Bon, il y a plein de moments où c'est intéressant de faire toujours les choses soi-même, même que ce soit le code, l'écriture, la musique, le dessin. Je pense qu'il faut qu'on garde quand même cette compétence du Minecrafting, qui un jour sera certainement à nouveau valorisée, quoi. Donc c'est bien, c'est un bon exemple de David qui... Voilà. Il arrive au mauvais moment, malheureusement. C'est-à-dire que ses dessins sont tellement beaux, il a tellement progressé que tout le monde est sceptique, forcément. C'est...
Donc je dis, hein, c'est Ménil Monet, donc Le Cycle des Titans, c'est le livre 1 donc, qui est paru. Et il y aura le lien vers le. Vous pouvez le commander chez Amazon. Là maintenant, vous le recevez en quelques jours. Ok, bah, merci David, merci Laurent pour tout ça.
Et puis, merci à vous.
On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.
Bye bye.
Salut tout le monde.